Vous écoutez France Inter, il est tout juste 13h. Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, le marché de Noël de Strasbourg a rouvert ce matin, moins de 24 heures après la fin de cavale de Shérif Shekat. Le tueur neutralisé hier autour de 21h à Strasbourg. L'appel à témoins a joué un rôle, dit la justice ce matin. Avant que les policiers ne ripostent, une balle a touché leur voiture. Vous entendrez le soulagement sur le marché de Noël et les derniers éléments de l'enquête dans un instant avec Sophie Parmentier. La revendication de l'État islamique est totalement opportuniste, dit le ministre de l'Intérieur. En Syrie, Daesh perd la dernière ville importante qu'il tenait encore à Jin. La France, via les avions Rafale, était engagée dans cette bataille. La pression sur les gilets jaunes, manifestée ou pas demain, avec les conséquences pour le commerce et les risques de violence. Réunion hier à la mairie de Bordeaux, par exemple. Négociation entre le maire et des gilets jaunes.
Je pense en effet que appeler à manifester, c'est courir un risque.
Nous-mêmes, on ne le maîtrise pas. Comment est-ce qu'on peut s'entendre pour éviter justement l'ensemble de ce carnage?
Vous entendrez cet échange plus longuement. Le dossier gilets jaunes, ce sera aussi comment l'Elysée aborde ce samedi avec Yael Goz et comment mettre en musique la promesse de 100 euros net en plus sur le SMIC. Ce sera avec Delphine Simon. L'État impuissant face aux grandes entreprises. Nouvel épisode. Ford rejette la dernière offre de reprise pour l'usine de Blanquefort et ne prend même pas le ministre au téléphone. Le gouvernement n'a quasiment aucun moyen de pression, nous dira un économiste. La conférence climat de Katowice en Pologne sera-t-elle un fiasco? Elle devait mettre en musique les promesses de la COP à Paris. Les pays n'arrivent pas à s'entendre. Notre invité sera l'un des observateurs à la conférence climat, David Levaille. J'ai testé pour vous notre rendez-vous du vendredi dans le journal de 13h. Bonjour Isabelle Pasquier.
Bonjour Bruno.
Qu'est-ce que vous avez testé?
Eh bien, j'ai visité de nuit le Panthéon à la lampe torche. C'est une très très belle idée, mais un petit peu victime de son succès.
Le Panthéon de nuit, on verra ce que ça donne. Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
La météo, que nous dit Météo France, Jean-Pierre?
Eh bien, du soleil aujourd'hui, un petit bémol quand même, avec des conditions anticycloniques. La grisaille il va résister par endroits et en particulier entre le massif central, le Lyonnais, le Nord-Est et le Nord. Mais en règle générale, donc, votre après-midi sera souvent ensoleillé, à l'exception des Pyrénées, de la Corse et de la Bretagne où les nuages seront nombreux et puis les températures maximales seront froides dans une large moitié nord, comprises entre 0 et 5 degrés. Elles seront plus douces ailleurs et entre 8 et 15 degrés.
Merci Jean-Pierre, on vous retrouve en détail juste avant 13h30. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. L'immense sapin de Noël de la place Kléber a retrouvé ses lumières. Les chalets de la place Breuil sentent à nouveau le vin chaud. Trois jours après l'attentat, quelques heures après la fin de cavale de Shérif Shekat, le marché de Noël a rouvert ce matin à Strasbourg. Reportage Mathilde Dehimi.
Comme un cri du cœur et la voix déjà bien chauffée dès le matin, le stand vin chaud proclame l'ouverture. Valérie est l'une des premières strasbourgeoises à se promener au milieu des étals. Elle hésite entre deux figurines pour son sapin de Noël.
Ça fait du bien, ça réconforte et puis bon, on espère que c'est fini, voilà. Nous, on ne peut juste pas imaginer Noël sans le marché de Noël. C'est toute notre tradition. On espérait vraiment que ça allait rouvrir.
Les touristes sont là. Renée est arrivée samedi dernier, heureuse de voir enfin des chalets ouverts.
Oui, avec joie, parce qu'on a eu peur un petit peu de repartir sans pouvoir le visiter, quoi. Et c'est avec joie, mais avec peine un peu, avec tout ce qui s'est passé. C'est tellement féerique, tellement joli, qu'on est émerveillé un petit peu par toutes ces lumières, cette fête d'ambiance, ces petits santons. Enfin, tout est joli.
Les commerçants du marché sont soulagés, comme Françoise, 35 ans dans la choucroute et les flammes-cuches.
On avait toujours une appréhension, mais maintenant qu'il est mort, voilà, ça va. On a une pensée pour les blessés et les morts, les pauvres. Les gens sont bien, ils sont joyeux, donc j'espère que ça va continuer. Mais là, il y a l'air d'avoir du monde, donc ils reviennent. C'est ça qui est bien.
La vie reprend son cours au marché de Noël, avec une sécurité renforcée, moins de points d'accès à l'hypercentre-ville, des horaires modifiés et des patrouilles mobiles dans les rues. Strasbourg, Mathilde Dehimi, Frédéric Quéroux, France Inter.
Et le bilan de l'attaque de mardi est donc de 3 morts et 13 blessés. Parmi ces blessés, 3 sont toujours entre la vie et la mort. 3 autres sont sortis de l'hôpital. C'est donc autour de 21h hier soir que Shérif Shekat a été tué. Rue du Lazaret, quartier du Neudorf, celui où il a grandi, au sud du centre-ville de Strasbourg. Ce quartier où on avait perdu sa trace 48 heures plus tôt. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour.
Service police-justice de France Inter. Vous suivez l'enquête minute par minute quasiment depuis le le début. Racontez-nous la fin de cette traque.
Alors, le nouveau procureur de la République de Paris, Rémy Hetz, qui dirige cette enquête antiterroriste, a précisé tout à l'heure comment l'étau s'est resserré peu à peu autour de Chérif Chekat, à la fois avec les surveillances mises en place depuis mardi soir, les informations recueillies en garde à vue, et puis cet appel à témoins qui a été lancé par la police nationale 24 heures après l'attaque. 800 appels ont été reçus, dont deux témoignages déterminants, a expliqué ce matin Rémy Hetz.
Le témoignage, tout d'abord, d'un riverain ayant vu un homme rue d'Épinal franchir une clôture et d'une autre personne signalant sa présence possible rue du Doubs à Strasbourg. Deux témoignages déterminants. Ce quartier du Neudorf retenait donc toute l'attention des forces de l'ordre intensément mobilisées.
Policiers d'élite, RAID et BRI, gendarmes d'élite, GIGN, tous étaient en alerte depuis deux jours, aux côtés de centaines d'enquêteurs judiciaires. Et vers 19h30 hier soir, un hélicoptère de la gendarmerie nationale a survolé avec ses caméras la zone où le terroriste semblait se cacher. Et c'est finalement une brigade spécialisée de terrain, trois policiers habitués aux patrouilles classiques, qui ont repéré le suspect numéro un marchant sur un trottoir et faisant mine d'entrer dans un immeuble, détaille le procureur.
Les fonctionnaires ont alors remarqué qu'il ne parvenait pas à ouvrir la porte de l'immeuble et que sa tenue vestimentaire ressemblait à celle du signalement. Ils se sont alors signalés en faisant état de leur qualité de policier. L'individu s'est retourné, pointant son arme dans leur direction pour tirer. Un projectile a atteint le véhicule de police au-dessus de la portière arrière gauche. Deux des trois policiers ont alors riposté, tirant à de nombreuses reprises et tuant l'auteur.
Chérif Chekat avait tiré avec une vieille arme de poing. Il avait aussi sur lui un couteau et quelques munitions de calibre 8 mm.
Alors, autre information donnée par le procureur, Sophie, il y a désormais 7 personnes en garde à vue dans le cadre de l'enquête.
Oui, les parents de Chérif Chekat, deux de ses frères et trois proches, toujours en garde à vue en France, pour tenter de faire avancer encore l'enquête, trouver d'éventuels complices, complices de la cavale qui aura duré donc 48 heures, ou d'éventuels complices de la préparation de l'attaque de mardi soir. Y a-t-il eu un donneur d'ordre? Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque hier, moins de 2 heures après la mort de Chérif Chekat, revendication opportuniste selon les experts que nous avons interrogés. Et c'est aussi l'analyse aujourd'hui du ministre de l'Intérieur.
Hier, pendant l'édition spéciale consacrée à la fin de cavale de Chérif Chekat sur BFM, pendant une bonne minute, on pouvait entendre en fond d'ambiance « I shot the sheriff », la chanson de Bob Marley. Incident grave, reconnaît ce matin la chaîne d'info continue qui présente ses excuses. L'équipe technique en charge du son plaide d'une erreur de manipulation. Une enquête interne est lancée. L'organisation État islamique revendique donc l'attaque de Strasbourg, revendication totalement opportuniste selon les spécialistes, vous le disiez Sophie. En Syrie et en Irak, le terrain contrôlé par les tueurs de Daesh tient de plus en plus sur un ongle. Un bastion supplémentaire vient de tomber en Syrie, à Jin, dans l'Est, tout près de l'Irak, la dernière ville un peu importante à leurs mains. Étienne Monin.
Adjin, c'est le dernier réduit de Daesh, la dernière ville importante entre les mains des djihadistes, le dernier secteur de repli dans lequel se trouvaient les plus radicaux et les plus aguerris des combattants. La bataille a été lancée il y a 3 mois. Elle est conduite au sol par les forces démocratiques syriennes, un groupe essentiellement composé de Kurdes, soutenu par les Américains, appuyé dans les airs par les moyens de la coalition avec des drones, des avions de chasse et des bombardiers. La France est engagée dans cette dernière bataille. 4 rafales opèrent de façon quotidienne et des canons César longue portée ciblent les objectifs définis par la coalition. Malgré l'importance des moyens, l'avancée des Kurdes a été laborieuse. Aujourd'hui, les combats ne sont pas terminés. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les djihadistes restent maîtres de plusieurs villages, mais cette avancée marque la fin de Daesh comme entité militaire et sa transformation en groupe clandestin.
Voilà pour ces précisions d'Étienne Monin. Nous parlions de Christophe Castaner sur le marché de Noël tout à l'heure entre les chalets et la place Broglie. Eh bien, le ministre s'est aussi, avant cela, rendu à Herrlisheim, une 20 kilomètres de Strasbourg, là où, quelques heures avant l'attentat, un cimetière israélite a été profané mardi soir. 37 stèles et le monument aux martyrs de la Shoah, recouverts de graffitis antisémites. Cela pourrait avoir été commis par un groupuscule d'ultra-droite, dit le ministre, qui déplore la banalisation de ce genre d'actes. contact avec, ajoute Christophe Castaner, un mélange de tout, y compris des références au pacte de Marrakech dans les tags retrouvés sur place. Les gilets jaunes à présent. Y aura-t-il demain beaucoup de manifestations et dans quel climat? Les gilets jaunes sont sous pression. France Insoumise, mis à part tous les partis, appellent à ne pas descendre dans la rue demain ou à minima déclarer les manifestations. À Bordeaux, Alain Juppé, le maire, rencontrait hier soir une trentaine de gilets jaunes dans une petite salle municipale. Écoutez l'échange.
Je pense en effet que appeler à manifester, c'est courir un risque.
Nous-mêmes, on ne le maîtrise pas. Donc c'est vraiment un mouvement de masse, un mouvement populaire qui n'est pas du tout maîtrisable pour aucun de nous. Donc les revendications, elles sont réelles, la misère est réelle et les demandes sont réelles. C'est vraiment une souffrance qui est exprimée. Or aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut s'entendre pour essayer de sécuriser ça et éviter justement l'ensemble de ce carnage?
Dans ce que vous dites, il y a un point qui peut être intéressant, c'est d'essayer d'organiser le défilé. Quel itinéraire et à quel moment on se disperse? Parce que c'est ça qui a mal tourné l'autre jour, si je ne me trompe. Le début des défilés s'est passé correctement. Il n'y a pas d'itinéraire idéal. Il y aura quand même beaucoup de monde samedi. C'est le dernier samedi avant Noël. Les gens vont faire leurs courses. Donc il faut quand même éviter les grandes artères commerciales. Je suis d'accord pour faire passer cette idée, je le répète, mais à ces deux conditions, qu'il y ait une délégation de certains d'entre vous pour s'engager vis-à-vis du préfet et que le préfet soit d'accord.
Et les négociations continuent avec le préfet cet après-midi à Bordeaux. Autre parole d'élu local, celle de Xavier Bertrand, qui estime que les gilets jaunes n'arriveront pas à ne pas être débordés, donc le président de la région Hauts-de-France. Et comment le gouvernement et l'Élysée abordent-ils ce nouveau samedi de manifestation? Après l'allocution de lundi dernier, les 10 milliards mis sur la table à travers différentes mesures, eh bien le pouvoir aborde le samedi avec ce cocktail, Yael Gauze, moitié confiance, moitié prudence.
Sur les réseaux sociaux, le bruit est toujours aussi fort. Sur l'échiquier politique, en revanche, exception faite des insoumis, c'est un décrescendo, une désescalade, dit un ministre. Le soutien au mouvement a considérablement reflué dans les sondages. On a réussi à cliver entre les modérés et les radicaux, se félicite un proche du président. Conséquence du blast à 10 milliards opéré par Emmanuel Macron lundi soir à la télé. D'après Beauvau, hier, il n'y avait que 6600 gilets jaunes sur les ronds-points. Un chiffre bas, mais cela ne bouge pas, tempère un conseiller. Et ce chiffre ne permet pas de tirer de conclusions sur la mobilisation un samedi. Les ultras, on leur a quand même fait mal samedi dernier, se rassure un proche de Christophe Castaner. À l'Elysée, on estime que le décor a changé, l'appel au calme est relayé dans l'opposition et la menace terroriste a remis les pendules à l'heure. Hier, des gilets jaunes réunis symboliquement à Versailles devant la salle du jeu de paume ont réclamé l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. L'exécutif les renvoie au débat national. Autrement dit, si vous voulez être entendu, il va falloir quitter les ronds-points.
À Paris, demain, le dispositif de sécurité sera le même que la semaine dernière. 8000 représentants des forces de l'ordre, 14 véhicules blindés. L'économie à présent dans ce dossier gilet jaune, certes, comme le disait Yael, il y a le blast, le choc des 10 milliards d'euros mis sur la table par Emmanuel Macron, mais ça, c'est en grande partie de l'affichage pour l'instant. La mise en place concrète des mesures annoncées reste à mener. Par exemple, la promesse d'une augmentation nette du SMIC de 100 euros, Delphine Simon.
Pour Bercy, c'est la quadrature du cercle. Augmenter de 100 euros le SMIC sans que les entreprises ne déboursent 1 euro de plus. Le gouvernement veut donc agir sur la prime d'activité. Problème, tous les SMICards ne la touchent pas. Le versement de cette prime est conditionné aux revenus de l'ensemble du foyer. Il dépend donc aussi des revenus du conjoint. Au final, seul un tiers des 2 millions de salariés au SMIC profiterait de la mesure. Pour que tous soient concernés, plusieurs pistes sont à l'étude. D'abord un chèque versé par les caisses de l'URSSAF, une mesure techniquement compliqué à mettre en œuvre. Il n'existe pas de fichier de SMICAR. Autre sujet de réflexion, simplifier les conditions d'accès de la prime d'activité. Entre les temps partiels ou ceux qui gagnent un tout petit peu plus que le SMIC, le dispositif est d'autant plus difficile à calibrer que la mesure doit s'appliquer dès le mois de janvier. À Bercy, on cherche la parade. Quitte à faire exploser le chéquier, la facture pourrait dépasser les 14 milliards d'euros, affirme un ministre. Le prix à payer, selon lui, pour ne pas mourir en bonne santé.
Ce vendredi également, la CGT appelle à la grève. Les mots d'ordre recoupent en partie ceux des gilets jaunes, dont le syndicat se rapproche petit à petit. Le pouvoir d'achat, l'impôt sur la fortune, les services publics. Une centaine de manifestations prévues. Celle de Paris part en début d'après-midi, République Nation. Et en raison de cet appel à la grève, eh bien, ce journal de 13h ne se déroule pas dans les conditions habituelles. Certains salariés sont en grève. Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, demande à Ford de rembourser l'argent public reçu pour l'installation l'installation de l'usine de Blanquefort en Gironde. Ford rejette l'offre de reprise du groupe belge qui devait préserver 400 emplois sur place. Fureur du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui n'a même pas été prévenu. Dans l'histoire de l'impuissance publique de l'État face aux grands groupes, c'est un nouvel épisode. Le gouvernement a-t-il des moyens de pression sur Ford ? Question posée par Fabien Cazot à l'économiste Michel Getty qui préside France Industrie Emploi. La réponse est claire.
Aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de contrainte, à part des mesures de rétorsion qui consisteraient à réclamer les fonds qui ont été versés par l'État pour cette usine. La seule possibilité, c'est la persuasion. Ce qui est dramatique là-dedans, c'est la mauvaise volonté de Ford. Dont on a bien compris, Ford, que leur préoccupation, c'est de fermer à tout prix pour avoir une action sur leur cours de bourse. C'est ça, leur problématique, elle est celle-là, elle n'est pas ailleurs. De ce fait, c'est leur extrême mauvaise volonté face à un repreneur qui, après expertise, est jugé apte à pouvoir reprendre le site. Et face à ce refus, c'est sans doute ce qui provoque l'ire du ministre de l'économie. Il n'y a pas de moyen légal quand une entreprise veut effectivement fermer.
Un propos recueilli par Fabien Cazot, l'actualité économique passe aussi par la Chine. Trois informations. Le tout premier réacteur nucléaire EPR entre en service à Taishan, dans le sud du pays. Première mondiale pour cette technologie française. Les chantiers multiplient les retards. Petit 2, dans le conflit commercial entre Chine et États-Unis, un nouveau geste de Pékin. La Chine va suspendre les surtaxes sur les voitures importées des États-Unis. Et puis le groupe de télécom chinois Huawei va-t-il perdre du terrain en Europe ? Les États-Unis l'accusent de glisser des dispositifs d'espionnage dans ses équipements. Et ce matin, Deutsche Telekom, pas un petit client, dit prendre l'affaire très au sérieux et réexaminer ses relations avec les équipementiers en général.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
La conférence climat de Katowice en Pologne sera-t-elle un fiasco ? Plus que jamais, les États semblent faire passer au second plan la question climatique. Bonjour David Levaille.
Bonjour.
Vous êtes l'invité de ce journal, spécialiste des questions climatiques à l'IDRI, Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Vous êtes observateur à la COP. C'est ça, plus que jamais, le climat passe au second plan. C'est l'impression que vous avez en observant les débats à Katowice.
J'irai pas jusque là. Le climat n'est pas passé au second plan. Néanmoins, on attendait quand même une manifestation d'une ambition politique avec une venue substantielle d'un certain grand nombre de ministres pour envoyer des signaux très forts, pour dire qu'ils avaient entendu les appels au secours des scientifiques et notamment du GIEC qui ont été révélés cette année. Et ce qu'on note, c'est quand même qu'il y a eu un manque crucial de mobilisation, que on reste largement en dessous des attentes qui étaient celles des observateurs, des ONG, de la société civile et d'un grand nombre de pays, et qu'on attend maintenant une mobilisation politique bien supérieure dans l'année, dans les années à venir, afin de répondre à l'attente.
Ce qu'il faut dire, David Levaille, c'est que au fond, l'état des relations internationales n'est pas du tout propice à un accord ambitieux entre États-Unis, Australie et d'autres pays qui sont très froids sur le climat.
Absolument, le contexte géopolitique était continuellement amené à des attaques sur le multilatéralisme, à la fois de Donald Trump, du nouveau président brésilien, Monsieur Bolsonaro, et ce qui a permis à tous les États ici qui sont réticents depuis des années à accélérer une transition énergétique et climatique, à avoir un soutien ou à se sentir légitime pour pouvoir freiner, bloquer et procéder à une forme de pratique coutumière de ce que font les négociateurs, c'est-à-dire perdre du temps pour penser que on va pouvoir récolter plus de positions qui nous arrangent.
Et à l'inverse, il n'y a pas de bon élève, il n'y a pas de leader. On se souvient de la COP à Paris, la France très offensive, en partie pour des raisons de communication et politique intérieure, mais qui au moins était offensive. Là, l'Europe est divisée, il n'y a pas de leader.
Ça manque effectivement de leadership. C'est d'ailleurs pour ça que le secrétaire général des Nations Unies est venu non pas une fois, ni deux fois, mais trois fois à Katowice pour essayer de à la fois tirer les oreilles de ceux qui sont le plus réticents, de sonner un coup de semonce, d'insister sur l'importance de ce travail multilatéral et de la coopération internationale pour y arriver, car on sait bien qu'ils n'arriveront que ensemble et unifié, et que c'est pas un sujet qui peut être traité de façon individuelle par les pays. Néanmoins, on attendait effectivement davantage de mobilisation, et l'Union européenne est dans une situation difficile, et je vous avoue que la présidence polonaise, qui est en fait aux manettes sur cette conférence climat a été clairement assez faible et durant toute l'année comme pendant les négociations n'a pas véritablement poussé ses partenaires à aller davantage de l'avant.
David Levaille, dernière question, il reste quoi, 2 jours pour cette conférence climat? Qu'est-ce qui serait essentiel? Qu'est-ce qui doit aboutir dans les heures à venir quasiment?
Alors normalement, elle devait se terminer aujourd'hui, oui. Effectivement, on est parti pour prendre du retard et il devrait rester 24 ou 48 heures. On va sortir de cette conférence avec un ensemble de règles mises en œuvre de l'accord de Paris. Oui. C'était très important parce que c'est un paramètre fort pour pouvoir assurer que cet accord est effectif, qu'il serve effectivement à quelque chose. Et le principal élément de cet accord, c'est le mécanisme d'ambition qui a été mis en œuvre, c'est-à-dire le fait que tous les 5 ans, les pays doivent revoir leurs engagements. Les pays ont soumis leurs engagements en 2014 et 2015. Désormais, la prochaine échéance, c'est 2020. Donc il nous reste 2 ans pour que les leaders politiques nationaux soient en mesure d'élaborer des plans de long terme, de court terme, de travailler avec l'ensemble des parties prenantes et de revenir d'ici 2 ans avec des engagements nouveaux. C'est pour ça que le sommet qui aura lieu l'année prochaine, organisé par le secrétaire général des Nations Unies, est aussi une étape importante dans cette direction-là. Et donc on espère que, au-delà de la fixation de ces règles-là, les pays vont pouvoir rentrer chez eux et commencer un travail national important et essentiel s'ils veulent pouvoir affirmer de nouveaux objectifs d'ici 2 ans.
Merci David Levaille d'avoir répondu à nos questions. Et donc on suit avec Sandy Dauphin pour France Inter la fin de cette conférence climat. L'actualité internationale, c'est aussi... elle nous emmène aussi au Mexique avec le nouveau président, un homme plus austère et qui joue la carte à gauche, qui ouvre au grand public la résidence présidentielle de Los Pinos. Et c'est un succès. Voyez ce reportage d'Emmanuel Stills.
Portes ouvertes à la résidence présidentielle, les militaires qui gardaient les lieux jouent désormais les guides improvisés et Los Pinos suscite tous les jours les regards ébahis de milliers de visiteurs mexicains. Des jardins luxuriants, des demeures somptueuses, le tout réparti sur 60 hectares, c'est 14 fois plus grand que la Maison Blanche. Le président Andrés Manuel López Obrador a promis de restituer au peuple ce qui lui appartient, alors le peuple vient faire le tour du propriétaire. La chambre et le dressing d'Enrique Peña Nieto et de son épouse, l'actrice de telenovela Angélica Rivera, suscitent les exclamations et la réprobation des visiteurs, comme celle de Jorge, un jeune médecin.
C'est un peu grand pour une armoire, c'est un petit appartement. Il y a un tel contraste avec la réalité dans laquelle vivent les Mexicains. Du coup, j'en viens à me demander s'ils avaient la moindre idée de la réalité du pays.
Dans son écrin de verdure, Los Pinos respire l'isolement. C'était important pour eux de nous cacher l'opulence dans laquelle ils vivaient, pense Luciana, une étudiante. Quant à López Obrador, il est resté vivre dans sa maison et a installé son bureau dans le Palais National, en plein centre-ville, avec vue sur la réalité. Mexico, Emmanuel Stills, France Inter.
Les gestes de rapprochement entre les deux Corées et Inde, plus elles discuteront en février prochain avec le comité olympique d'une candidature commune à l'organisation des JO d'été en 2032. Alors c'est très loin, mais le symbole est là. Au Brésil, Cesare Battisti, à nouveau sous la menace d'une extradition dans son pays d'origine, l'Italie. La Cour suprême ordonne son arrestation. Nous ne serons satisfaits que quand il sera effectivement extradé, dit le ministre de la Justice en Italie. 10 ans après avoir arraché son indépendance à la Serbie, le Kosovo se dote d'une armée. C'est officiel depuis ce matin. L'Alliance Atlantique, qui avait participé à la guerre, n'apprécie pas vraiment. Nous allons réexaminer le niveau d'engagement dans le pays, dit le secrétaire général de l'OTAN. Vous vous souvenez peut-être de l'enquête Implant Files à laquelle avait participé Radio France. Cette enquête qui montrait qu'il y avait un manque de contrôle très sérieux sur les dispositifs médicaux. Eh bien, les associations comme Médecins du Monde, la Ligue contre le cancer ou encore la revue Prescrit réclament désormais un contrôle beaucoup plus strict de ces dispositifs médicaux avant leur mise sur le marché. Moins de laxisme et les associations font des propositions. Véronique Julia.
En France, un médicament ne peut être mis sur le marché qu'après une procédure encadrée. On doit prouver que la molécule ne présente pas de danger et qu'elle apporte un bénéfice thérapeutique. Les essais cliniques sont faits pour ça. On demande à des patients volontaires de tester le produit et on compare entre ceux qui ont pris la molécule et ceux qui ont pris le placebo. Pour les dispositifs médicaux, a fortiori ceux qui sont implantables, donc les plus à risque, rien de tel. C'est le fameux marquage CE qui prévaut. On en connaît les limites. Les associations réclament donc aujourd'hui que la France désigne carrément un laboratoire laboratoire. Il surveillerait point par point la sécurité de chaque dispositif médical nouveau sur le territoire. Tout serait donc contrôlé, vérifié. Alain-Michel Serretti préside France Asso Santé qui représente les patients.
C'est à l'État d'identifier les laboratoires qui feraient les contrôles. L'ANSM ferait le cahier des charges en disant pour une prothèse de hanche, voilà les 50 points qui doivent être contrôlés avant la mise sur le marché. Par exemple, si c'est une prothèse de hanche métal-métal, être sûr qu'elle ne fait pas de copeaux, parce qu'on a eu le problème sur des prothèses de hanche il y a quelques années, qui se répandaient dans le corps après, parce qu'il y avait une défaillance dans le métal.
Alain-Michel Serretti compare d'ailleurs cette proposition à ce qui se fait déjà pour les machines à rayons X. Pour avoir le droit de les exploiter en France une fois exportées, il faut depuis quelques années les faire valider par un laboratoire qui vérifie leur bonne marche et l'absence de danger pour ceux qui les manipulent.
1 million de migrants en Allemagne en 2015. Souvenez-vous, Angela Merkel avait fait le choix qu'elle paye aujourd'hui politiquement d'ouvrir grand les portes de son pays. Comment se passe leur intégration au monde du travail? Réponse du dirigeant de la Fédération des patrons allemands BDA. Je suis moi-même surpris que ça aille si vite. Sur 1 million de personnes, selon ce responsable, 400 000 suivent une formation en alternance ou ont décroché un emploi. Et puis cette information de dernière minute, nous avons commencé le journal à Strasbourg. Le président de la République Emmanuel Macron, il passera cet après-midi à Strasbourg, rendre hommage aux victimes, rencontrer des proches et aller au contact des Strasbourgeois. Ce sera donc cet après-midi, il rentrera du sommet européen de Bruxelles. À 13h25, comme chaque vendredi, c'est l'heure de notre chronique « J'ai testé pour vous ». Aujourd'hui, Isabelle Pasquier, vous l'avez entendu dans les titres. Vous avez donc testé, Isabelle, la visite nocturne du Panthéon. Il y en a deux chaque mercredi soir jusqu'à fin janvier. Comment ça s'est passé?
Alors j'en suis ressortie vivante, suis là, un peu gelée.
Je confirme, vous êtes là.
On avait bien froid, oui. Mais bon, c'est vrai que j'avais fantasmé, comme vous tous j'imagine, sur des moments de silence, oui. De solitude, au milieu des grands hommes et des grandes femmes, oui. De la République.
De solennité.
Et ça n'était pas tout à fait ça, mais vous allez voir pourquoi, oui. Vous allez faire la visite avec moi, oui. Je vous conseille quand même de mettre un petit bonnet, des moufles, et vous me suivez, on va être en compagnie de David Madec. David Madec, l'administrateur du Panthéon.
C'est parti.
Nous allons vous confier une lampe torche, je vous la donne tout de suite. Après on va vous donner un petit questionnaire et vous allez découvrir d'abord la crypte et ensuite la neige.
Donc là, on descend à la crypte.
On descend dans la crypte.
Je m'attendais à ce qu'on soit dans un silence assez impressionnant et finalement, c'est un peu les Champs-Élysées aussi.
Il y a beaucoup de visiteurs, mais c'est parce qu'on est au début. Vous allez voir, avec le questionnaire, on va se retrouver dans des endroits très à l'abri des visiteurs.
Il y a même des gens avec des lampes frontales, comme s'ils faisaient de la spéléo.
Ils sont bien organisés.
C'est pour faire plaisir à mon grand-père que je suis venu. Et aussi pour me cultiver parce que j'en aurais besoin pour le bac.
Mais vous l'avez perdu, le grand-père?
Il se balade, il regarde des choses qui ne m'intéressent pas vraiment. Du coup, je vais voir ce qui m'intéresse. Simone Veil, tout ça, parce que j'en connais pas beaucoup.
Je me suis dit que ça serait un peu bizarre de se vadrouiller à travers les morts en pleine nuit, mais finalement, non, ça va.
Tant qu'on n'a pas répondu à tout le questionnaire, on est coincé dans la crypte.
Oui, on en a gardé toute une semaine déjà.
Bon, là, moi, j'avoue que je suis complètement perdue.
On est au centre de la crypte et le son résonne avec
un écho incroyable. Ah, c'est très beau. En plus, il y a nos ombres sur la coupole.
Parce que c'est vraiment très très bien. C'est une belle expérience. Ce qui est émouvant, c'est d'être devant le caveau de Simone Veil et de Jean Moulin en même temps. Ça fait quand même des frissons.
Ce qui me gêne le plus, c'est le manque de respect du lieu. Là, il y avait un couple qui se bécotait. Je trouve dans une crypte, à côté des tombeaux de Simone Veil et de son mari, j'ai été choquée.
Shocking, Marie. En tout cas, moi, je ne les ai pas vus, bon. Ces amoureux, et je ne suis pas du tout sûre que Simone Veil aurait été choquée.
Est-ce que vous nous conseillez de faire cette visite dans ces conditions-là, alors?
Mais oui, c'est quand même une super expérience, mais voilà, cette belle idée de visite nocturne est victime de son succès. Alors, on devrait au moins demander aux visiteurs d'être un peu plus silencieux, ou alors, je vous conseille de venir avec un casque anti-bruit, des boules-casses. En tout cas, j'en garde de très, très belles vibrations.
Et il faut s'inscrire sur le site internet du Panthéon. Au passage, le tarif, c'est 12 euros, et donc deux visites ont lieu chaque mercredi soir.
À 19h et à 20h.
Jusqu'à fin janvier. Merci beaucoup Isabelle Pasquier. À ne pas manquer sur franceinter.fr. Aujourd'hui, un sujet autour de la pollution à Lille. La ville de Lille connaît ce vendredi un nouveau pic de pollution en particules fines. C'est la 60e fois cette année, 60e épisode de pollution en particules fines, alors que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande de ne pas franchir la limite de 3 fois dans l'année. Non pas 3, mais 60. Les détails sont sur notre site internet. franceinter.fr.
La météo avec les dindes fermières de Loué. Loué, le bon goût de la liberté.
Jean-Pierre Hameau.
Les conditions sont anticycloniques sur une grande partie du pays. En conséquence, votre après-midi sera souvent ensoleillé, même si quelques grisailles peuvent résister par endroits entre le Massif central, le Lyonnais et le Grand Est. Un bémol tout de même avec un régime d'averses du côté des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, mais aussi en Corse. Prévoyez un temps maussade en Bretagne sous un ciel nuageux, lâchant par moments quelques gouttes d'eau avant l'arrivée en soirée de pluie soutenue. Côté température, peu d'évolution. Les maximales seront froides dans le nord et le nord-est, y compris entre 0 et 4 degrés. N'attendez pas plus de 0 degrés au meilleur de la journée à Metz et Mulhouse, 1 à Nancy, Lille, Orléans et Strasbourg, 2 à Dijon, Lyon, Reims, Bourges et Nevers. N'attendez pas plus de 3 degrés dans la capitale, comptez 4 degrés à Nantes. Elles seront plus douces dans le sud et le sud-ouest, avec des valeurs comprises entre 8 et 15 degrés. Prévoyez 8 à Bordeaux, 10 à Pau, 12 à Nîmes, 13 à Marseille et 15 à Ajaccio.